Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
La bibliothèque Mazarine est la plus ancienne bibliothèque publique française, dont l'activité se poursuit dans les mêmes locaux depuis 3 siècles. Créée à partir de quelques 30 000 livres réunis par le cardinal Mazarin, elle fut adjointe au Collège des Quatre Nations, puis rattachée à l'Institut de France. Elle conserve aujourd'hui plus de 2000 incunables, dont un exemplaire de la Bible de Gutenberg. Monsieur Christian Pédigry, vous êtes le conservateur en chef de la bibliothèque. Et à ce titre, je pense que vous allez nous apprendre beaucoup de choses sur son contenu, son histoire. Alors, au fait, comment est-elle construite? Quelle est son origine, cette bibliothèque?
Les origines de la bibliothèque Mazarine remontent, bien entendu, aux collections personnelles du cardinal Mazarin, qu'il avait commencé à rassembler dans son palais romain du Mont Quirinal et qu'il a surtout constitué à Paris à partir de 1643, lorsqu'il est venu s'installer définitivement dans la capitale pour devenir le principal ministre de la reine Anne d'Autriche. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a confié à l'érudit Gabriel Naudet le soin de constituer cette bibliothèque.
Alors, qui était ce Gabriel Naudet?
Et Gabriel Naudet, qui avait une formation de médecin, avait déjà servi comme de bibliothécaire au président de même, au cardinal Bagne, au cardinal Barberini. Il avait été appelé par le cardinal Richelieu, qui meurt en décembre 1642, et il passe naturellement au service du cardinal Mazarin en 1643.
Mais il y avait certainement une raison, parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage qui faisait date.
Il a publié en effet en 1627 le premier, ce que l'on peut considérer comme le premier traité de bibliothéconomie, un avis pour dresser une bibliothèque.
Donc, c'est bien évident qu'un personnage de haute charge comme le cardinal ne pouvait pas aller chercher les ouvrages chez les bouquinistes comme nous faisons aujourd'hui. Donc, il était naturel que l'on fît appel à des personnalités comme ça.
Il est vrai que Gabriel Naudet a déployé pendant plusieurs années, de 1643 jusqu'à la Fronde, une activité extraordinaire au service de son nouveau maître, fréquentant les bibliothèques, les boutiques et les arrière-boutiques des libraires parisiens, qui semblaient comme dévastés par un cyclone après chacun de ces passages, parce qu'il arrivait généralement avec 2 ou 3 charrettes, il prenait la moitié de la boutique et ensuite il prenait le temps de trier les ouvrages qui l'intéressaient et d'échanger les autres. Mais il a également effectué un certain nombre de voyages à l'étranger, notamment en Italie, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Il n'y a guère que l'Espagne où il ne s'est pas rendu parce que les deux pays étaient en guerre à ce moment-là et il n'a pas pu obtenir les passeports pour se rendre dans ce pays. Mais chaque fois, il revenait avec des milliers d'ouvrages. Et je crois que c'était en 1646, quand il revient d'Italie, il franchit les Alpes en plein hiver, à 4 pattes, nous disait-il, parce que, bien sûr, les routes étaient couvertes de neige et de verglas.
Alors, tous ces volumes, il fallait bien les ranger quelque part, où étaient-ils conservés?
Alors, Mazarin avait acheté l'hôtel de Chevry-Tuboeuf, qui très vite se révéla insuffisant pour héberger ces milliers d'ouvrages qui arrivaient d'un peu partout. Et il prit la décision de faire construire par l'architecte Pierre Lemuet une grande galerie qui se trouvait le long de la rue de Richelieu à l'emplacement de la Bibliothèque nationale de France. Et cette belle galerie ornée de boiseries, de colonnes cannelées surmontées de chapiteaux corinthiens, les mêmes que l'on peut admirer aujourd'hui dans la salle de lecture de la Bibliothèque Mazarine, devait être en plus décoré de fresques par Pierre de Cortone, pressenti par Mazarin. Mais Pierre de Cortone, pris par d'autres chantiers en Italie, a décliné cette invitation. Mais cette bibliothèque que l'on appelait quelquefois la bibliothèque des colonnes, parce qu'elle comportait effectivement 50 colonnes, faisait l'admiration de tous par sa beauté, son importance, et aussi par le fait qu'elle était déjà ouverte au public dès le début. Elle était ouverte au public, et ce qui était une chose assez rare à cette époque. On connaît peu de bibliothèques privées au XVIIe siècle qui étaient ouvertes au public. On peut citer la Bodleienne d'Oxford, ou l'Ambrosienne de Milan, ou ou la bibliothèque angélique à Rome, toutes les trois d'ailleurs fondées au début du XVIIe siècle. Mais cette mesure prise par Mazarin et son bibliothécaire a fait grand bruit à son époque.
Ça ne plaisait pas à tout le monde. Mais alors, le classement, le choix, tout cet amas de volumes, de titres, correspondait à un schéma directeur, comme on dirait maintenant. Il y avait un classement. On n'achetait pas n'importe quel ouvrage, ça correspondait à un classement précis.
Gabriel Naudet était un érudit qui n'achetait pas de la littérature de divertissement, il achetait des livres sérieux de philosophie. Donc le classement qui a été adopté devait être à cette époque-là un peu un classement thématique. Mais ensuite, à la fin du XVIIe siècle, on a commencé à classer les ouvrages. Et il m'est arrivé de découvrir des ouvrages provenant de la bibliothèque de Mazarin qui portaient un numéro d'inventaire, un numéro de cote, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Et je trouve cela très, très émouvant de voir qu'il portait le même numéro.
Alors ça nous permet d'arriver à cette décision, ce souhait de Mazarin qui va bouleverser les choses. Quelques temps avant sa mort, donc il est mort en 1661, quelques temps avant sa mort, il décide de créer un collège, qui serait le collège des Quatre Nations, dans lequel serait installée sa bibliothèque.
Effectivement, trois jours avant de mourir, le cardinal Mazarin rédige son testament, dans lequel il émet un double vœu, d'une part celui de créer un collège, le collège des Quatre Nations, qui est devenu ensuite le palais de l'Institut à partir du début du XIXe siècle. Mais ce collège était destiné à accueillir une soixantaine de jeunes gens issus provenant des quatre provinces qui avaient été récemment annexées à la France sous son gouvernement, à savoir l'Alsace. Je dis l'Alsace pour simplifier parce que c'était beaucoup plus compliqué au XVIIe siècle. Le district de Pignerol en Italie, le Roussillon, annexé par le traité des Pyrénées, et au nord de la France, l'Artois, le Hainaut et la Flandre. Donc des régions où l'on ne parlait pas le français, mais on parlait plutôt le flamand, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Et le but de Mazarin était de former les élites, les jeunes gens d'origine noble, de bonne famille, et de leur inculquer les rudiments de la culture française pour qu'ils puissent les diffuser dans leur région d'origine une fois revenus dans leur région. Mais le souhait du cardinal Mazarin était de joindre à ce collège, qui a fonctionné d'ailleurs jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, une bibliothèque qui serait ouverte deux jours par semaine au public. Il ne l'écrit pas noir sur blanc, mais on lit entre les lignes. Il est évident qu'il ne souhaitait pas que sa bibliothèque soit dispersée après sa mort, comme cela avait été le cas pendant la Fronde. Et on sait qu'en janvier-février de l'année 1652, le Parlement de Paris avait décidé de disperser, de mettre en vente cette bibliothèque, ce qui fut fait d'ailleurs. Donc il avait le souci de garder la cohésion et de sa bibliothèque après sa mort. Oui.
Il faut préciser qu'elle fut dispersée, mais rachetée quasiment immédiatement par tous ses proches.
Alors effectivement, elle avait été mise en vente par l'eau. Même la reine Christine de Suède, qui était parfaitement au courant des événements qui se passaient à Paris, avait racheté en bloc la totalité de ses manuscrits, quelques 2000 manuscrits qui sont partis à Stockholm. Lorsque Mazarin revient au pouvoir quelques mois après, acclamé par les Parisiens qu'il avait vilipendé, conspué quelques mois plus tôt, il est évident que les acheteurs de la veille se sont empressés de lui restituer les ouvrages qu'ils avaient achetés. Donc très vite, on a pu, peut-être pas en totalité, mais on a pu reconstituer en grande partie sa bibliothèque. Et parmi les livres que lui a restitué un certain Jobert, avocat au Parlement, il y avait la Bible de Gutenberg, mais dont on ne savait pas à ce moment-là que c'était la Bible de Gutenberg.
Oui, il y a une histoire amusante. On l'a découvert un peu par hasard.
On a découvert au XVIIIe siècle, c'est un libraire parisien, Guillaume-François de Bure, qui
célèbre libraire, grand bibliographe.
En 1763, en venant travailler à la bibliothèque Mazarine, s'est aperçu que cet exemplaire de la Bible de Gutenberg, cette Bible que nous avions, était le plus ancien livre imprimé. Et on a découvert à ce moment-là qu'il s'agissait effectivement de la Bible imprimée par Gutenberg. Si bien que pendant très longtemps, les bibliophiles, les bibliographes, les libraires parlaient de la Bible Mazarine pour désigner la Bible de Gutenberg, parce qu'on avait fait cette découverte à partir de notre exemplaire.
Et alors on a sa reliure était peut-être pas en très bon état et on l'a reliée à nouveau.
Alors la reliure d'origine a complètement disparu et a été remplacée par une reliure assez sobre du XVIIIe siècle, des années 1770 peut-être.
On ne ferait plus cela. Aujourd'hui.
J'espère qu'on ne le ferait plus.
Donc cette bibliothèque est installée dans cette galerie maintenant, ce qu'on appelle la bibliothèque Mazarine, donc dès l'origine. Bien sûr, la salle ne correspond pas, la décoration de la salle a un peu été modifiée. Comment était-elle à l'origine ?
On est frappé d'abord par quand on rentre dans la salle de lecture, par l'ordonnancement en général de la salle, par cette double galerie, une petite et une grande galerie qui se recoupe à angle droit. Et cette disposition a été voulue par l'architecte Levaux, qui voulait également, mais ce n'était sûrement pas une bonne idée, mettre du carrelage au lieu de mettre du parquet. Et on lui a fait remarquer que le carrelage était sans doute sonore, était froid, donc peu confortable. Et sur ce point-là, l'architecte Levaux n'a pas eu raison. Et donc on a mis du parquet.
D'autant plus qu'on n'éclairait pas et on ne chauffait pas, de peur de craindre des incendies.
On l'a chauffé très tard, oui.
Simplement. Tout a été modifié vers 1740. Les galeries ont été augmentées parce qu'il fallait réorganiser. Les livres rentraient.
Effectivement, la bibliothèque, la salle de lecture n'a pas subi de modifications importantes sur le plan architectural, hormis le plafond qui à l'origine était voûté et qui menaçait ruine déjà vers 1739, 1740 et qui a été remplacé à ce moment-là par un plafond plat qui venait à la perpendiculaire des murs, ce qui permettait de rajouter au-dessus du balcon, qui existait déjà mais qui n'était pas utilisé, cet rayonnage supplémentaire où sont disposés des volumes de petit format, des volumes in octavo.
Alors, il y a deux symboles, il y a une horloge d'un côté et un globe terrestre de l'autre.
Mais cette disposition est récente. Et il faut rappeler que la bibliothèque, la salle de lecture a été restaurée dans les années 70 et que l'on a fait des travaux importants à ce moment-là pour restaurer les boiseries et on a sans doute aménagé différemment les objets d'art, les bustes, les pendules, les commodes qui se trouvaient dans la salle de lecture.
Ça, c'est une belle symbolique, le temps qui passe. Ouais. Alors, tout au fond de la galerie, il y a une porte monumentale qui est sculptée aux armes de Mazarin. Et cette porte, en fin de compte, ne s'ouvre jamais, mais on peut l'ouvrir. Et derrière, qu'y a-t-il ?
Alors, il y a une porte de communication qui nous sépare de la bibliothèque de l'Institut.
C'est le lien direct.
Qui est toujours fermée, si vous voulez, mais que l'on peut ouvrir quand on veut. Il n'y a pas de cloison étanche, au contraire, entre les deux bibliothèques.
Oui, puisque de toute manière, comme l'on sait que le Collège des Quatre Nations est laissé à place à l'Institut définitivement en 1820.
Mais ce qui est amusant, c'est que cette porte a servi d'entrée à la salle de lecture pendant très longtemps. Et il y a trois marches, trois ou quatre, je ne sais plus, qui permettent de descendre dans la salle de lecture. Mais cela a été voulu par l'architecte Levaux parce que il voulait qu'en ouvrant la porte, on ait une vue avantageuse sur le vaisseau de la bibliothèque. Cela est consigné d'ailleurs dans ce que nous appellerions aujourd'hui les cahiers, les comptes rendus de réunions de chantier, puisque Colbert venait régulièrement inspecter le cours des travaux avec l'architecte et faisait des remarques, des critiques.
Alors, ce qui est quand même curieux, c'est les jouxtant la bibliothèque de l'Institut, la bibliothèque Mazarine n'est rentrée dans l'Institut, si je puis dire, que très récemment, puisqu'elle était rattachée à la Bibliothèque nationale, et finalement, on s'est quand même rendu compte qu'il valait mieux. Mais ça date de 1945, cela.
La bibliothèque Mazarine est en effet rattachée sur le plan administratif à l'Institut de France depuis une ordonnance du 13 janvier 1945, alors que précédemment elle faisait partie de ce que l'on appelait la réunion des bibliothèques nationales avec un certain nombre d'établissements comme la bibliothèque de l'Opéra, la bibliothèque Sainte-Geneviève, la bibliothèque de l'Arsenal et quelques autres.
Alors, nous indiquions tout à l'heure, en évoquant la Bible, qu'il y avait des nouveaux ouvrages, car évidemment, cette bibliothèque n'est pas figée. La collection du Mazarin est bien là, mais on n'a jamais cessé de l'enrichir continuellement. D'ailleurs, c'était spécifié dans les volontés de Mazarin.
Tout à fait. Je peux dire que les collections de la bibliothèque se sont accrues presque d'une manière exponentielle depuis les origines. Parce que au cours du premier siècle, de la fin du XVIIe jusqu'à la veille de la Révolution, les collections ont doublé, passant de 30 000 à 60 000 volumes. De la fin du XVIIIe à la fin du XIXe, elles ont triplé, passant à 480. Mais il faut dire que les confiscations révolutionnaires ont été particulièrement importantes. Et l'administrateur de l'époque, l'abbé Leblond, a fait rentrer quelques 50 000 volumes en l'espace de quelques années.
Oui, on raconte qu'il allait dans les dépôts, il servait, il prenait ce qui l'intéressait.
Mais en toute légalité, il avait toujours un mandat pour aller chercher des livres dans les dépôts littéraires qui avaient été constitués aux dépens des communautés religieuses, des collèges, des institutions de l'Ancien Régime. Il agissait en toute légalité. D'ailleurs, il faisait partie de tous les comités révolutionnaires.
Oui. Ce qui n'empêchait pas d'avoir réussi à récupérer des ouvrages qui avaient appartenu notamment aux filles de Louis XV, à Marie-Antoinette, aussi à Louis XVI. Je crois que vous avez le projet des instructions mémoires et autres pièces relatives au voyage découverte ordonné par le roi sous la conduite de Monsieur de la Pérouse.
Oui, effectivement, oui.
C'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup maintenant.
C'est un de nos manuscrits qui figure d'ailleurs dans notre, ce que nous appelons la grande réserve parmi les trésors de la bibliothèque Mazarine.
C'est un manuscrit qui date de 1785. Il est relié en maroquin bleu, orné des fers et aux armes de Louis XVI.
Oui.
Et le texte est annoté de sa main, si je me souviens bien.
Tout à fait.
Donc, au XIXe siècle, la bibliothèque a perdu son caractère encyclopédique et s'est davantage spécialisée dans l'histoire locale et régionale de la France.
Surtout depuis la fin du XIXe, les premières années du XXe siècle, effectivement, la bibliothèque Mazarine bénéficie du dépôt légal concernant les ouvrages et les périodiques relatifs à l'histoire locale et régionale de la France. Ce qui nous permet aujourd'hui de recevoir quelques 2000 monographies et 450 périodiques publiés par des sociétés savantes, des académies de province, des associations qui sont très, très nombreuses et très vivantes en province. C'est la principale source d'enrichissement. Nous achetons des ouvrages, bien entendu, mais c'est tout de même la principale source d'enrichissement de la bibliothèque Mazarine. Et c'est une spécialité à part entière qui vient d'être confirmée par une convention signé entre le président de la Bibliothèque nationale de France et le chancelier de l'Institut tout récemment pour maintenir le bénéfice de ce dépôt légal en faveur de la Mazarine.
Alors vous êtes à la tête de combien de titres maintenant ?
Nous avons en gros un peu plus de 500 000 ouvrages. Mmh. Un peu plus de 500 000.
Oui. Et parmi tous ces ouvrages, vous avez bien sûr les Mazarinades. Il fallait quand même un petit peu en parler. Tous ces pamphlets écrits contre Mazarin.
Nous avons peut-être la collection la plus importante de Mazarinades qui existe au monde, avec plus de 5 000 pièces. Mmh. Peut-être 12 000 si on compte les doubles et les triples exemplaires que nous avons, qui était collecté par Gabriel Naudet lui-même parce que Mazarin voulait savoir ce que l'on disait sur lui. Bon, les Mazarinades, on le sait, sont des pamphlets dirigés contre le cardinal Mazarin, mais pas toujours, pas systématiquement. En fait, on désigne sous ce nom, d'une façon plus générale, toutes les pièces officielles qui ont été publiées pendant les 4 années de la Fronde, y compris des actes royaux, toutes les décisions prises à ce moment-là. Donc, ce sont essentiellement des pamphlets, mais il y a quelques pièces qui sont aussi en faveur de Mazarin.
Donc, ce sont des Mazarines de Ophile, peut-être, à ce moment-là. Alors, outre ces documents, la Biblia Sacra de Gutenberg, vous avez quand même beaucoup de trésors. Nous parlions donc du manuscrit de la Pérouse. Pouvez-vous nous citer quelques trésors? Je sais pas, par exemple, le bréviaire de l'abbaye du Mont-Cassin, qui était composé au XIe siècle, ou bien d'autres encore, des livres d'œuvres.
Le bréviaire du Mont-Cassin fait partie de nos trésors, effectivement. En ce moment, il n'est plus chez nous. Il est à Paderborn, où nous l'avons prêté pour une grande exposition. Et il va revenir bientôt, début novembre. Il s'agit d'un manuscrit écrit en écriture béneventaine qui a été rédigé probablement pour l'abbé du Mont-Cassin à l'extrême fin du XIe siècle, qui est orné de miniatures sur les premières pages et qui comporte un certain nombre d'initiales ornées qui sont de toute beauté.
Et aussi parmi vos collections, on dit parfois que la Mazarine est également un conservatoire de l'histoire de la reliure. Vous avez des reliures prestigieuses, une douzaine, dit-on, d'Henri II.
Nous avons effectivement des reliures de toutes les époques, des reliures médiévales, des reliures du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle, beaucoup moins du XIXe et encore moins du XXe. Parmi ces belles reliures, je pourrais citer une reliure mosaïquée du XVIIe siècle qui a été réalisée par un atelier que l'on appelait l'atelier du maître d'horreur dans les années 1630 et qui a été offert par la reine Marie de Médicis à Mazarin. Non pas par Anne d'Autriche, mais par Marie de Médicis. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances. Peut-être en 1631, lorsque Mazarin a fait un court séjour à Paris, ou bien après l'exil de Marie de Médicis à Bruxelles, après la journée des dupes. On ne sait pas en quelle année exactement. Mais c'est un cadeau effectué par Marie de Médicis à Mazarin.
Oui, parce qu'il faut bien dire que chaque exemplaire est toujours unique, a toujours une histoire, du moins on l'espère. Ouais. Je crois que vous avez aussi des petits clins d'œil de Ronsard, de Rabelais.
Ce qui fait l'intérêt, la beauté, l'originalité, la valeur des collections de la Mazarine, bien sûr, ce sont les trésors dont on pourrait citer une longue liste, mais je crois que c'est aussi un ensemble qui comporte des ouvrages peut-être moins précieux, mais qui ont, comme vous le dites, chacun une histoire, qui ont des particularités d'exemplaires, qui ont une reliure différente, qui ont des marques de provenance. Je crois que c'est cela aussi qui fait l'intérêt d'un fonds que l'on n'aura jamais fini de répertorier, d'exploiter, de mettre en valeur, de connaître.
Oui, moi j'avoue que je rêve devant ce traité médical annoté par Rabelais. Le médecin, Rabelais, il y a tout un ensemble, tout un conféré. Bon, c'est peut-être un petit peu du fétichisme, mais en même temps, on a l'impression de toucher le personnage et de le comprendre un peu plus. Ou bien la signature de Ronsard sur un ex libris. Et bien sûr, aussi, il y a tous ces autres ouvrages qui, eux, ne font rêver que par leur contenu. Alors, cette bibliothèque, elle est libre d'accès. Comment vient-on? Quelles sont les conditions?
La bibliothèque Mazarine, aujourd'hui, est une bibliothèque publique et... En cela, elle perpétue la tradition inaugurée par le cardinal Mazarin en 1643. Elle est ouverte à tous, contrairement à ce que l'on peut penser généralement. Elle est ouverte à tous. Les formalités d'inscription sont extrêmement simples. Donc on peut considérer que c'est la bibliothèque publique la plus ancienne de France et effectivement, elle est toujours une bibliothèque publique.
Alors comment on fait? Je me présente à l'entrée de l'Institut, je dis je veux aller à la bibliothèque, on montre le chemin,
oui,
on m'accueille, on me donne une carte,
il y a
un
bureau dans la salle de lecture où on pourra vous établir une carte de lecteur. Si vous arrivez avec une pièce d'identité, avec une photographie, c'est encore mieux. On peut vous établir tout de suite une carte de lecteur, moyennant 15 € si vous choisissez une carte annuelle, ou 7,50 € si vous choisissez une carte valable pour 10 séances, ou un laissez-passer gratuit de 48 heures. Ce qui est très utile pour des chercheurs qui viennent soit de province, soit de l'étranger, qui veulent passer peu de temps à la bibliothèque, qui veulent consulter un document précis et qui n'ont pas besoin de prendre une carte annuelle.
Et quels sont les horaires?
La bibliothèque est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 18h.
Un grand merci pour cette visite. Thank you.